europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. De mémoire de journaliste, on n'avait jamais vu cela. Un candidat à la présidence distribuer des drapeaux européens et faire applaudir l'Europe dans ses meetings. Indiscutablement, le président Emmanuel Macron est un Européen convaincu, alors que ses prédécesseurs étaient au mieux des Européens timorés. La vision du monde du nouveau président français passe par l'Europe et partout, presque, son élection a provoqué un ouf de soulagement dans les pays de l'Union Européenne. Alors la France va-t-elle enfin participer à la relance de l'Europe? Comment et sous quelle forme? Mais surtout, Emmanuel Macron va-t-il réussir à réconcilier les Français avec l'Europe? Bref, Emmanuel Macron peut-il changer l'Europe? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et depuis quelques semaines le président du Mouvement Européen France. Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Votre dernier livre, Pour quelques étoiles de plus aux éditions Ligne de Repère, sous-titré L'Europe, ce que peut faire le nouveau président. Alors c'est une petite centaine de pages, vous en avez envoyé un exemplaire à Emmanuel Macron?
Absolument.
Il vous a répondu?
Absolument.
Hans Stark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CERFA. Le CERFA, c'est le comité d'études des relations franco-allemandes. Il y a dans le cadre de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. En ligne de Bruxelles, Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant en Belgique auprès des institutions européennes pour le quotidien Libération. Vous aussi, vous avez écrit un livre, Les salauds de l'Europe, sous-titré Guide à l'usage des eurosceptiques. Alors, on peut croire que c'est un guide à l'usage des eurosceptiques lorsqu'on lit le premier chapitre, mais évidemment, après, c'est un guide à l'usage des bienfaits de l'Europe, avec évidemment une vision très critique de la situation européenne. Je signale aussi votre blog, Les coulisses de Bruxelles, pour tout savoir ce qui se passe à Bruxelles, au cœur des institutions. Et nous ferons, comme chaque semaine, un détour par la rédaction de Courrier International avec Corentin Pénarguerre, qui est déjà là. Bonjour Corentin.
Bonjour Daniel.
Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens.
Une profession de foi ô combien européenne d'Emmanuel Macron au soir de son élection, prononcée juste après une traversée du Louvre rythmée par l'ode à la joie de Beethoven, c'est-à-dire l'hymne européen. Que signifie l'élection d'Emmanuel Macron et la défaite de Marine Le Pen pour la France, pour l'Europe, Yves Bertoncini?
Je pense qu'il y a deux messages clés au-delà de la dimension émotionnelle et effectivement de cette entrée sur l'air de l'hymne à la joie. Le premier message, et c'était l'un des enjeux de l'élection vu de France mais aussi de l'extérieur, c'est de rappeler que s'il y a de l'euroscepticisme en France, l'europhobie, c'est-à-dire la détestation de l'Europe au point de la quitter, y est minoritaire. Les Français, les sondages nous le disaient, mais maintenant c'est une élection qui nous le confirme, ne veulent pas, dans leur grande majorité, quitter l'Union européenne. Ce n'est pas qu'ils l'adorent, mais ils ne veulent pas la quitter. Et donc, c'était quand même un message d'autant plus fort après le vote en faveur du Brexit en juin dernier. Et lorsqu'on continuait à lire cette fable propagée notamment par les médias anglo-saxons selon laquelle il y aurait une dislocation de l'Union européenne qui passerait par la France. Je crois que ce qui va demeurer, c'est en réalité une crise de copropriétaires, c'est-à-dire des pays membres qui ne veulent pas sortir, mais qui se disputent entre eux. Et ils se sont disputés déjà sur la crise de la zone euro, sur la crise des réfugiés, un peu avant sur le traité constitutionnel. Ça reste quelque chose de difficile comme situation, de stimulant. Mais ce n'est donc pas la dislocation de l'Union européenne. Je pense que la victoire d'Emmanuel Macron apporte un coup d'arrêt à cette fable. Deuxièmement...
Et un peu d'huile dans les rouages européens.
Alors, deuxièmement, oui, mais pour une autre raison. J'ai déjà parlé de l'euroscepticisme qui existe en France, qui n'est pas réservé à la France. Il y a d'ailleurs des euroscepticismes de diverses natures qui se répondent en Europe. L'euroscepticisme des Grecs, trop d'austérité, ce n'est pas l'euroscepticisme des Finlandais qui pensent qu'au contraire, il y a trop de solidarité. Bon. Simplement, il y a autre chose qui est plus proprement français. C'est une affirmation et je pense une victoire contre le franco-scepticisme. Le franco-scepticisme, Emmanuel Macron a porté un message positif d'espoir, en disant, écoutez, arrêtons d'accuser l'Europe et le monde de tous les maux. Nous avons des problèmes, oui, en France, et nous allons les résoudre avec nos propres solutions, parce que nous sommes la France. On va y arriver. Yes, we can, comme disait Barack Obama. Wir schaffen das, comme l'a dit la chancelière Merkel au moment de la crise des réfugiés. Et je crois que ça, c'est totalement, totalement déterminant et décisif pour d'ailleurs repenser le lien avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, et c'est le troisième point, Emmanuel Macron a des ambitions très fortes pour elle. Il a un agenda européen ambitieux. Mais il commence par la France en disant, mettons notre maison en ordre, reprenons-nous, trouvons en nous les ressources, le potentiel pour faire face aux défis qui nous attendent et que nous affrontons. Et puis, évidemment, l'Europe nous y aidera.
Jean-Dominique Giuliani, Emmanuel Macron a rappelé qu'il défendra l'esprit des Lumières dans l'Union et au-delà, position très gaullienne, s'il en est.
Oui, la France avait disparu de l'Europe. Je crois que la voix française en Europe, depuis quelques années, ne se faisait plus entendre. Et que ça manque à l'Europe. Pourquoi ? Parce que chaque pays, surtout les plus grands, a un rôle en Europe qui l'occupe plus ou moins bien. Et la France a plutôt, d'habitude, le rôle d'agiter des idées, parfois un peu trop, d'inventer de nouvelles règles. On préfère les inventer que les respecter, souvent. Mais on avait besoin aussi de cette voix française pour essayer de participer à un réveil de l'Europe. Et donc, cela a manqué. Et l'élection d'Emmanuel Macron, c'est une très bonne nouvelle, et pour la France et pour l'Europe, parce que c'est un homme politique qui, pour la première fois depuis longtemps, au plus haut niveau, assume l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et, comme le disait à l'instant Yves Bertoncini, au lieu de se replier et de cultiver le pessimisme, est un optimiste. Nous pouvons redémarrer et valoriser l'appartenance de la France à l'Europe. Bien sûr, on a un travail à faire, et ensuite on a des idées à partager avec nos partenaires. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. J'ai écrit que la France est de retour en Europe, et que l'Europe est un peu de retour sur la scène internationale. C'est un peu comme ça que la presse le voit, d'ailleurs.
Hans Stark, l'Allemagne a voté Macron, que ce soit d'ailleurs Angela Merkel ou Martin Schulz. On peut pas dire ça.
Alors
vous allez me rectifier.
Ça va le desservir.
En tout cas, quelle impression ça a donné en Allemagne? On a toujours l'habitude de présenter la France comme un pays empreint de morosité. Et puis soudain, elle élit un candidat porté par l'optimisme. Ça a surpris l'Allemagne. Un nouveau paradoxe français.
Je pense que les Allemands étaient d'abord extrêmement soulagés, et notamment après le premier tour. Il ne faut pas peut-être oublier le premier tour sous l'effet du soulagement du deuxième. Le premier tour, en France, c'est quand même plus de 50% des voix qui se sont portées sur des candidats qui ont remis en question le projet européen. Donc la remise en question de
et on peut rappeler que sur 11 candidats, 8 étaient anti-européens.
Sur 11 candidats, il y en avait 2 qui ont défendu, là, vraiment fortement, Macron, le projet européen. 9 lui ont tapé dessus pendant des débats à la télé. Et puis, ils ont eu plus de 50%, ce qui est énorme. Et du coup, jusqu'à quelques jours avant le deuxième tour, certains confrères en Allemagne, de vos confrères, se disaient, bah, finalement, peut-être Le Pen va passer, puisque Trump est passé aux États-Unis, personne n'avait prédit. Le Brexit a eu lieu, pourquoi pas aussi le même scénario en France. Donc finalement, c'est aussi un peu grâce au débat entre Macron et Le Pen que les choses se sont un peu clarifiées 3 jours avant le vote, et puis aussi les sondages ont clairement aussi distingué les uns des autres les deux candidats. Donc je pense que les Allemands doivent être extrêmement prudents face à ce vote et se dire que Macron, encore faut-il qu'il ait une majorité derrière lui parlementaire, c'est un one shot, et pour éviter que se produise ce qui ne s'est pas produit en 2017, donc en 2022, à savoir donc que l'arrivée au pouvoir des eurosceptiques, eh ben il faut qu'ils réussissent.
Jean Quatremer, à Bruxelles, on a entendu un énorme ouf de soulagement qui est arrivé jusqu'à nous. C'est aussi votre impression?
Oui, absolument. À Bruxelles, tout le monde a été évidemment extrêmement soulagé par l'élection de Macron, mais on est un peu surpris par la sous-estimation de la portée de ce qui s'est passé en France du côté des commentateurs français, parce que effectivement, il y a eu un premier tour où Macron est arrivé en tête sur un programme franchement pro-européen, où il affirmait son appartenance à l'Europe, où il faisait applaudir l'Europe. Je veux dire, on n'avait pas vu ça depuis la campagne qu'avait menée Daniel Cohn-Bendit moment des élections européennes 2009, juste après le référendum du traité constitutionnel européen. Et donc on avait et donc il arrive en tête alors que tout le monde pensait que ça serait Marine Le Pen qui arriverait en tête. Marine Le Pen fait une contre-performance déjà au premier tour, et au second tour les choses se clarifient puisque là on a deux projets qui s'opposent, un projet de fermeture, un projet identitaire, un projet de rejet, d'exclusion, et en face un projet européen d'ouverture, de tolérance. Et là les Français ont clairement fait un choix. Alors on va me dire oui mais ils ont aussi voté contre le Front National. Oui, mais le problème c'est que en France, et vu d'ici, c'est la, ce qui est étonnant, c'est la dédiabolisation du Front National. Quand on voit que la moitié des mélenchonistes se sont abstenus en renvoyant dos à dos le Front National et le libéralisme de Macron, ça montre que le danger fasciste entre guillemets n'a pas joué le rôle déterminant qu'on lui prête. C'est une des explications, mais c'est pas la seule. Là, je crois vraiment qu'il s'agissait d'un référendum sur l'euro et sur l'Union européenne. Et je crois que si Marine Le Pen avait clairement abandonné son idée de sortie de l'Union européenne et de l'euro, le résultat aurait sans doute été fort différent.
Jean Quatremer, après, il y a eu deux élections qui ont précédé l'élection française, une élection en Autriche, une élection aux Pays-Bas, qui ont été des échecs relatifs, on va dire, pour l'extrême droite. Est-ce que à Bruxelles, on dit, voilà, avec l'élection française, il y a un coup d'arrêt qui a été donné au Parti populiste en Europe, ou est-ce qu'on est un peu plus nuancé?
Alors d'abord, le Parti populiste, enfin, moi personnellement, je récuse tout à fait cette appellation, c'est les partis démagogiques. Et deuxièmement, on a vraiment l'impression effectivement qu'il y a un coup d'arrêt à la vague eurosceptique et europhobe, que le Brexit n'a absolument pas eu un effet domino, plutôt ça a eu un effet domino inverse, parce que contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, eh bien c'est que les pays les plus eurosceptiques, voire les pays légèrement europhobes, comme la Pologne, la Hongrie, mais aussi la Suède, ont réaffirmé leur intention de rester dans l'Union européenne. Je veux dire qu'on a eu des serments pro-européens qui étaient presque émouvants, si j'ose dire, dans la bouche de dirigeants qui jusque-là passaient leur temps à cracher sur l'Union européenne.
Avec vous, Corentin Pénorga, rebonjour. Nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. La presse internationale, et plus particulièrement la presse européenne, s'est passionnée pour l'élection présidentielle française. Elle est dans l'ensemble satisfaite et rassurée par la victoire d'Emmanuel Macron.
Et oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son élection, elle a fait souffler un vent d'euphorie sur l'idée même de l'Europe à la une des journaux de nos voisins. Dès le lendemain du scrutin, on pouvait voir des titres à la une comme « Vive l'Europe » à la une de Courrier en Autriche, ou encore l'idée d'un vote pour la démocratie et pro-européen en une du journal grec Tanea. Alors ce qui a marqué les médias européens, c'est surtout que Emmanuel Macron, bien, c'est un des seuls hommes politiques en Europe de ces dernières années à avoir fait campagne en revendiquant son attachement à l'Union européenne, et qu'il l'a emporté assez largement. Alors du coup, le journal italien La Stampa en tire une leçon pour les hommes politiques en général, et surtout pour Matteo Renzi, qui lui cherche à revenir au pouvoir en Italie, c'est que, eh bien, on ne peut pas sortir le drapeau européen et le remiser au placard au gré de l'opinion, mais qu'il faut, au contraire, comme ce qu'a fait Emmanuel Macron, le laisser flotter au vent et rester attaché à cette idée de valeur commune européenne pour être élu.
Alors un enthousiasme à géométrie variable tout de même, selon qu'on l'on habite le nord ou le sud de l'Europe.
Ah oui, alors ça c'est très clair, hein. Au sud de l'Europe, on se montre plutôt ravi de voir arriver Emmanuel Macron au pouvoir, parce que comme le dit le journal espagnol El Mundo, il peut replacer le cœur de l'Europe un petit peu plus au sud et contrebalancer la puissance allemande. Alors en Grèce aussi, hein, par exemple, le journal To Ethnos estime que cette élection envoie un message très clair à Berlin sur la nécessaire restructuration de la dette grecque, tout en maintenant Athènes dans la zone euro. Là-bas, on n'a pas oublié les efforts de Emmanuel Macron en ce sens quand il était ministre de l'économie de François Hollande. Et alors par contre, côté allemand, même si la presse était largement pro-Macron durant toute la campagne, eh ben, on commence aussi à s'interroger, hein, surtout sur sa volonté de créer un budget de la zone euro avec un ministre des Finances et d'aller vers plus d'intégration européenne. La Süddeutsche Zeitung juge ces propositions peu réalistes parce que, selon elle, eh ben, de telles réformes, elles nécessiteraient de modifier le traité de Maastricht et donc d'organiser des référendums dans les pays membres, ce qui peut s'avérer très compliqué. Alors en résumé, hein, pour le quotidien allemand, en voulant aller très vite et très loin dans les réformes européennes, Macron il risque aussi de créer une légère surchauffe en Europe et à Bruxelles.
Et puis il y a ceux qui craignent de rester sur la touche.
Ouais, c'est le cas surtout des pays de l'Est de l'Europe, qui redoutent justement cette Europe à deux vitesses voulue par Macron. Le journal polonais Dziennik Gazeta Prawna prévoit par exemple que le plan de Macron d'une zone euro restreinte va pousser les pays comme la Pologne, eh bien, aux marges du projet de l'Union européenne. mardi, il y avait un édito du rédacteur en chef du journal Rzeczpospolita, un journal conservateur polonais qui titrait même « La zone euro ou la mort pour la Pologne ». Donc ça fait très réfléchir en Pologne notamment. Et il y a la même crainte en République tchèque où le quotidien Lidové Noviny écrit que la victoire de Macron, elle fait monter la pression sur la République tchèque qui doit maintenant se décider entre devenir un membre de seconde zone de l'Europe ou alors entrer dans la zone euro, participer à la politique migratoire de manière intensive et rejoindre le noyau dur européen.
Merci Corentin. Courrier International qui consacre une bonne partie du numéro actuellement en kiosque à l'homme pressé, évidemment. Emmanuel Macron, 39 ans seulement, faut-il le rappeler. Hans Stark, pour poursuivre un peu ce que vient de dire Corentin Penarguer, est-ce que la victoire d'Emmanuel Macron va obliger l'Allemagne à adoucir ses positions rigoristes d'un point de vue budgétaire, évidemment?
Si l'Allemagne ne modifie pas son discours européen, elle ne peut pas en même temps clamer son intention de soutenir Macron dans sa quête finalement de réconcilier les Français avec l'Europe et de renforcer aussi le poids français dans le couple franco-allemand. L'Allemagne dit toujours, Merkel le dit, nous voulons une France forte, il faut qu'on puisse parler sur un pied d'égalité entre Paris et Berlin, autrement ça ne marchera pas. Donc la logique de cela, c'est l'acceptation du fait que l'Allemagne doit s'investir davantage sur le plan économique. Je renvoie...
S'investir et donc investir.
S'investir, ça veut dire investir, ça veut dire accepter des idées comme un budget pour la zone euro, ça veut dire aussi éventuellement accepter l'idée de payer plus que les autres pays de l'Union européenne au niveau du budget de l'UE. C'est une proposition qui a été faite par Sigmar Gabriel, qui est aujourd'hui la position officielle quand même du SPD avec Martin Schulz. Reste à savoir comment est-ce qu'on peut le réaliser dans les mois qui viennent. Là, il faut savoir deux choses. Un, les Allemands vont voter le 24 septembre et ce n'est pas maintenant qu'on va accepter de mettre la main au portefeuille. Faut pas penser, c'est évident. Donc il ne faut pas être trop pressé.
Mais entre-temps, il y a le mois d'août en France et le mois d'août, il ne se passe pas grand-chose non plus en France.
C'est peut-être la bonne nouvelle de ce point de vue-là. La deuxième, c'est savoir est-ce que les projets que Emmanuel Macron va éventuellement mettre sur la table, qui vont prévoir un vrai saut qualitatif au niveau de l'intégration européenne, est-ce qu'ils vont, et c'est ce que vous avez souligné au niveau de l'article de la Süddeutsche, est-ce qu'ils vont se solder in fine à la fin par un référendum en France, et un nouvel échec analogue à celui de 2005 sonnerait peut-être le glas de tout projet européen pendant le temps à venir. Et donc, les Allemands seront sans doute sceptiques au sujet, je termine là-dessus, de l'acceptabilité de ces projets au niveau de la société française, premièrement, mais aussi au niveau du sérieux budgétaire de la France qui doit aller de pair avec des propositions concrètes au niveau du saut qualitatif de la zone euro qu'on demande.
On va y revenir. D'un mot, Yves Bertoncini, François Hollande, en son temps, il y a 5 ans, lui aussi avait dit qu'il allait renégocier le pacte budgétaire, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui fait que Emmanuel Macron aurait plus de chances de réussir vraiment en moins d'une minute?
D'abord, il ne s'est pas rien passé. Je crois que depuis plusieurs années, les Allemands ont beaucoup concédé sur les sujets union économique et monétaire. La Banque centrale a été hyperactive. Et ça, c'était plutôt en écho à des idées françaises. Le pacte de stabilité a été ultra flexibilisé. Il y a eu une union bancaire, c'est un peu technique, mais les Français en voulaient, pas forcément les Allemands. Un plan d'investissement. Il y a eu beaucoup de victoires politiques qui sont plutôt des victoires politiques françaises. Et je ne parle même pas des plans de sauvetage à la Grèce, à l'Irlande, Espagne, qui sont mal passés en Allemagne, alors qu'en France, ils étaient tout à fait naturellement accueillis. Donc, précisément, si on n'est pas conscient que les Allemands ont l'impression d'en avoir déjà fait pas mal, qu'on va peut-être leur demander un peu plus, parce qu'effectivement, il y aura, et j'espère qu'il y aura une réduction de la dette grecque après les élections allemandes, on ne peut pas comprendre qu'ils attendent d'abord que nous-mêmes nous mettions notre maison en ordre. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est engagé à le faire. Il va le faire parce que c'est bon pour la France. Parce que c'est par exemple pas bon d'empiler les déficits excessifs au-dessus de 3%. C'est pas parce qu'il y a des rappels bruxellois qu'il faut les ramener à un peu moins de 3%. Parce que si c'était bon d'empiler les déficits excessifs depuis 15 ans, c'est ce que nous faisons, on serait en meilleure situation. Il va le faire parce qu'il a un programme pour ça. Il lui faut une majorité pour ça aussi. Mais s'il y arrivait, en tout cas s'il envoyait des signaux positifs dans les 6 prochains mois, puisque les Allemands vont voter, eh bien ensuite, en effet, ça créerait les conditions d'une relance, d'un rebond. Pourquoi pas au sein de la zone euro? Mais je crois qu'il y aura aussi beaucoup de sujets en franco-allemand sur la sécurité collective. Parce que là, c'est un sujet sur lequel la France est à la fois en première ligne et leader. et où les Allemands sont appelés, mais je crois que c'est leur volonté, à en faire bien davantage.
On va revenir sur tous ces sujets dans la deuxième partie de l'émission. On va faire tout de suite une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Europejskie.
Kruzymion tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. De mémoire de journaliste, on n'avait jamais vu cela. Un candidat à la présidence distribuer des drapeaux européens et faire applaudir l'Europe dans ses meetings. Indiscutablement, le président Emmanuel Macron est un Européen convaincu, alors que ses prédécesseurs étaient au mieux des Européens timorés. La vision du monde du nouveau président français passe par l'Europe et partout ou presque, son élection a provoqué un ouf de soulagement dans les pays de l'Union Européenne. Alors la France va-t-elle enfin participer à la relance de l'Europe? Comment et sous quelle forme? Mais surtout, Emmanuel Macron va-t-il réussir à réconcilier les Français avec l'Europe? Bref, Emmanuel Macron peut-il changer l'Europe? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Hans Stark, chercheur au CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes, et en ligne de Bruxelles, Jean Quatremer, le correspondant de Libération auprès des institutions européennes. Mais avant de reprendre notre débat, j'aimerais que nous tendions l'oreille auprès de Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge de l'économie, de la finance et de la fiscalité. Il était de passage à Paris mardi dernier et bien sûr, lui aussi se réjouit de l'élection d'Emmanuel Macron.
L'élection d'Emmanuel Macron est une formidable nouvelle. C'est une bouffée d'optimisme pour la France et pour l'Europe. Pour que l'Europe avance, il faut un couple franco-allemand en forme, en harmonie, avec des propositions communes, et il faut une commission qui soit aussi à la manœuvre avec ses projets, avec un président français force de proposition, une chancelière allemande qui comprend les attentes françaises, et une commission européenne qui est là pour défendre l'intérêt général de tous.
Alors justement, comment la Commission européenne entend rebondir sur ce que vous présentez comme une chance pour l'Europe ?
La Commission européenne, elle est dans son rôle et a présenté ce qu'on appelle un livre blanc il y a quelques semaines qui offre plusieurs scénarios à l'Europe. Et un de ces scénarios, c'est le bond en avant, d'aller plus loin ensemble, notamment dans l'approfondissement de la zone euro. La zone euro, demain, après le Brexit, ce sera 85% du PIB de l'Union européenne. On a besoin que l'euro, comme le disait Jacques Delors, non seulement protège, mais dynamise. On a besoin d'un budget européen pour l'investissement et pour lutter contre le chômage. On a besoin d'une sorte de mise et finance de la zone euro qui puisse piloter la politique économique de la zone euro. On a besoin, de manière globale, de plus d'investissements en Europe pour être plus compétitif et aussi pour lutter contre le chômage. Voilà les attentes concrètes auxquelles nous devons maintenant répondre.
Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie et aux finances. Est-ce qu'il s'agit, Jean-Dominique Giuliani, d'une prise de conscience de la Commission, pour le moins des propos en contradiction avec ceux de Jean-Claude Juncker au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, qui a dit, en tapant sur les doigts d'Emmanuel Macron, qui n'était pas encore intronisé, rappelez-vous, hein, les déficits.
Non, c'était une interview qu'il a donnée en Allemagne. Depuis, Jean-Claude Juncker a manifesté aussi sa satisfaction d'avoir un président français engagé en Europe, et il a dit qu'il était prêt à aider. Parce que la phase que va vivre l'Union européenne maintenant, et notamment après les élections allemandes, c'est une phase où nous devons faire face à des défis qui ne concernent pas des compétences européennes transmises à l'Union européenne. Je pense à la sécurité, à la défense, je pense à une politique migratoire commune, je pense aussi à la gouvernance de l'euro. Il faut donc que ça passe par une phase démocratique dans nos États, que ce soit des initiatives des États ratifiées par les peuples, où on associe les peuples, et je crois que Emmanuel Macron a quelques bonnes idées là-dessus. En Allemagne, il y a des procédures qui sont très démocratiques, le Bundestag est associé à tous les moments, des propositions européennes, et donc il faut que aussi les institutions européennes acceptent qu'il y ait un moment intergouvernemental dont on sait bien qu'on aura, il deviendra communautaire un jour ou l'autre, parce qu'on a toujours besoin d'une commission européenne pour mettre en œuvre nos décisions, mais aujourd'hui ce sont les capitales et les États membres qui doivent faire progresser l'Europe. Donc ça doit être clair, et j'ai l'impression qu'à Bruxelles on n'a pas encore compris ça, n'est-ce pas, quand Emmanuel Macron dit qu'il faudrait que l'Europe achète européen, buy European Act, et qu'aussitôt M. Katainen, vice-président de la Commission, dit « mais non, pas du tout, tout, alors que tous les États du monde font ça, que le Parlement européen fait des économies, fait voyager les parlementaires européens sur des compagnies low cost brésiliennes, parce que c'est moins cher, pendant que Air France et Lufthansa rament pour pouvoir faire face à la concurrence, il y a quand même quelque chose, et là il y a un message français qui devrait avoir de l'écho en Allemagne, je pense sur les instruments commerciaux, la défense commerciale, l'anti-dumping, etc., d'une Europe ouverte, mais une Europe qui ne soit pas naïve. Et je crois que Jean Quatremer l'a parfaitement dit aussi dans la manière dont c'est géré tous les jours, au quotidien, par les institutions européennes. De temps en temps, il faut un peu se remettre en cause.
Avant de redonner la parole à Hans Stark, Jean Quatremer, justement, j'aimerais avoir votre impression. C'est vrai que cette Commission européenne, on l'a souvent qualifiée d'ultra-libérale. Alors, surtout la Commission Barroso, un peu moins la Commission Juncker, mais tout de même, est-ce que les mots de la Commission Barroso sont encore perceptibles dans la Commission Juncker?
Bah, oui, absolument, puisque la commission, c'est pas seulement la commission Juncker, hein, ça a commencé dès le lendemain du départ de Jacques Delors, cette dérive, et avec une prise de pouvoir idéologique des Britanniques sur la commission, sur les commissions qui sont succédées au lendemain du départ de Jacques Delors. Le problème fondamental qu'a cette commission, et Juncker en a conscience, mais lui-même tombe dans les travers parce qu'il est prisonnier du système. Le problème de cette commission, c'est qu'elle ne fait pas de politique, elle ne sait plus faire de politique. Et les commissaires eux-mêmes se font happer par une machine bureaucratique qui leur prémâche un travail et on leur explique qu'il faut qu'ils disent ça, qu'ils ne peuvent pas dire ça. C'est-à-dire, en clair, je dirais, les compétences, les traités, c'est des morceaux de la vraie croix européenne et ils ne peuvent pas être remis en cause. Ici, tous les jours, on honore le Saint-Suaire de Jean Monnet et ça en devient extrêmement agaçant. Je veux dire qu'au lendemain de l'élection, effectivement, d'Emmanuel Macron, que Juncker se lâche en disant que la France, il a raison, dépense infiniment trop, donc entre 54 et 56% de son PIB passe dans les dépenses publiques. C'est vrai, c'est un constat. C'est pas nouveau, mais on dit pas ça au lendemain d'une élection d'Emmanuel Macron qui est déjà contestée par son aile gauche. C'est-à-dire que c'est totalement crétin. Et Juncker a été totalement crétin. C'est-à-dire, il y a un moment ou un autre, il faut leur dire taisez-vous. C'est-à-dire, laissez les grands faire de la politique et arrêtez de vouloir ramener la politique à des mécaniques de précision comme si, voilà, les choses devaient se passer comme ça et pas autrement. La déclaration que vient de rappeler Jean-Dominique Giuliani de Katainen, c'est la même chose, c'est catastrophique. De fait, parlons aussi des marchés publics. Les marchés publics européens sont ouverts à hauteur de 90%, alors que les marchés publics de nos partenaires, principaux partenaires commerciaux, sont fermés à la concurrence étrangère. Et nous, on reste les naïfs du commerce international. C'est la réalité. Alors, on tente de changer. Mais la machine, aujourd'hui, et moi, ça, j'en suis profondément persuadé, c'est ce que je dénonce dans mon livre les salauds de l'Europe, je pense que la commission telle qu'elle est totalement irréformable. On a besoin d'une commission, mais on ne peut plus travailler avec cette commission telle qu'elle est. Je pense que là, vraiment, il faudrait faire un petit peu ce qu'avait fait Ronald Reagan avec les aiguilleurs du ciel dans les années 80, c'est-à-dire virer tout le monde, réembaucher, reconstruire quelque chose. Pas l'Europe, juste la Commission européenne qui devient vraiment le principal fournisseur, pourvoyeur de l'europhobie en Europe, comme vient encore une fois d'en faire la démonstration Jean-Claude Juncker, qu'on a connu plus intelligent dans le passé.
Alors, Hans-Jürgen, je ne pense pas que Angela Merkel ait envie de virer la Commission européenne, enfin, je ne pense pas, mais est-ce que néanmoins, cette élection, c'est ce nouveau personnage politique Emmanuel Macron, est-il susceptible de relancer à travers le couple franco-allemand le moteur de l'Europe?
Il faut d'abord voir ce qui va avec l'Allemagne et ce qui peut ne pas aller avec l'Allemagne. Je pense que le Buy European Act n'ira pas avec l'Allemagne. Les Allemands font l'essentiel de leurs excédents commerciaux avec les pays en dehors de l'Union Européenne et d'ailleurs peut-être même faut-il s'en réjouir qu'ils le fassent avec le Brésil et non plus avec la Grèce, à qui on vend beaucoup moins de sous-marins depuis quelques temps et c'est peut-être une bonne chose aussi. Donc, cette proposition de Macron a tout de suite suscité des articles critiques outre-Rhin où on s'est dit, ah, tiens, maintenant on va remplacer le protectionnisme français ancien, traditionnel, par un protectionnisme européen qui finalement n'aboutira pas à grand-chose. Pour un pays comme l'Allemagne, c'est hélas inconcevable. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être négocier avec eux, c'est difficile parce que c'est pas l'État qui décide, ce sont les bénéfices que les entreprises tirent de leurs exportations au-delà des frontières européennes pour réorienter ces derniers vers le marché européen. C'est-à-dire qu'il faut investir en Europe. C'est ça ce qui est peut-être plus important encore, et en particulier en France. Et lorsqu'on regarde la carte française, lorsqu'on regarde les votes du Front National, notamment dans le Grand Est, et qu'on constate que c'est le Grand Est aussi qui est extrêmement perdant sur le plan économique.
Totalement désindustrialisé.
Et alors que vous avez de l'autre côté de la frontière le Baden-Württemberg qui est le fleuron de l'économie allemande, on se dit quand même qu'il y a des choses qui vont à l'envers dans le franco-allemand. Quelle différence? Comment est-ce possible qu'il y ait une telle différence entre Champagne-Ardenne, Lorraine d'un côté, et puis le Baden-Württemberg et la Sarre de l'autre? Comment expliquer cela? Et je pense que c'est là qu'il faut surtout, à mon avis, insister.
Alors, on a pourtant quelques raisons d'être optimiste, des indicateurs plutôt verts, croissance plutôt satisfaisante, qui dépasse déjà celle de la Grande-Bretagne, le spectre de la faillite grecque qui s'éloigne, le choc du Brexit qui paraît contenu, et puis tout de même ce risque existentiel que sommes-nous, nous les Européens, qu'est-ce que nous avons à faire dans le monde. Ça, avec Emmanuel Macron, Yves Tonchini, cette idée quand même recule, les clignotants sont quand même un petit peu au vert.
Je crois que ce qui va aider Emmanuel Macron, c'est que on va peut-être, nous, Européens, se tourner davantage vers le monde. Parce que le monde...
Il existe.
Est là, et se rappelle à nous, avec toute une série de menaces, hein, parce que le terrorisme islamiste, hein, qui nous a frappé, qui a aussi frappé ailleurs, et y compris en Allemagne, Vladimir Poutine, dont on a vu que même dans la campagne électorale française et bientôt allemande, il a essayé de jouer un rôle. L'instabilité en Irak, en Syrie, en Libye, le fait que notre grand allié américain dans ce contexte n'est plus si fiable qu'avant, on peut avoir en tout cas des doutes. Eh bien, tout cela va forcer les Européens à regarder davantage le monde et peut-être avoir, et Emmanuel Macron le dit, l'Europe comme une protection. Donc l'Europe comme un outil politique. Et ça rencontre tout à fait la pensée française sur l'Europe. Je dirais qu'en termes d'agenda, les Français ont toujours voulu faire l'Europe pour faire la politique, la diplomatie, pas le marché. Et au fond, évidemment, la difficulté en France sur l'Europe, c'est qu'au fond, l'Europe du traité de Rome, le traité de Rome, ce n'est pas un traité français fondamentalement, les quatre libertés, etc. Et donc, évidemment, comme c'est ce qu'est l'Europe aujourd'hui, il y aura des problèmes qui continueront à exister en termes de perception. Emmanuel Macron a un agenda en matière sociale et fiscale qui est un agenda ambitieux, qui est un agenda français assez classique. Pour l'imposer, il aura d'autant plus de difficultés si, du point de vue social et fiscal, la France n'est pas dans une meilleure situation. Mais je crois que la chose très importante, c'est le déplacement des priorités vers un horizon plus géopolitique. Et c'est là-dessus qu'on attend des Allemands qu'ils en fassent davantage. Parce que quand on parle de coopération policière, judiciaire, d'échange de renseignements, de protection des frontières extérieures de l'Europe, quand on parle d'intervention dans notre voisinage immédiat, donc de diplomatie, d'intervention militaire, la France est plutôt en situation de leadership, et on parle en tout cas de quelque chose qui, effectivement, comme l'a dit Jean-Dominique, peut d'ailleurs se faire en partie au début dans un cadre intergouvernemental. On parle de quelque chose qui est un tout petit peu plus conforme à la vision française de l'Europe, et donc on entre en phase avec les nécessités géopolitiques actuelle, et ça n'empêchera pas que, même si Emmanuel Macron est plus attendu sur les sujets économiques, sociaux, monétaires, budgétaires, il essaiera de dérouler son agenda aussi loin que possible. Mais là-dessus, il faudra, et c'est quand même un préalable d'abord pour nous, qu'il puisse montrer qu'il sait réformer la France, redresser l'économie et les comptes. C'est sa priorité aussi.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, Emmanuel Macron peut-il changer l'Europe? Nous sommes avec Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors, avec Jean-Dominique Giannini, le président de la Fondation Robert Schuman, avec Hans Stark, chercheur au CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes, et avec Jean Quatremer, correspondant du quotidien Libération, en ligne de Bruxelles. Alors, une Europe forte, une Europe qui protège, des mots que Emmanuel Macron a souvent prononcés lors de ses meetings, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Et j'ai envie de poser la question à Jean Quatremer à Bruxelles.
Déjà, j'ai entendu tout à l'heure votre invité allemand,
Hans Stark,
Monsieur Stark, dire que pour l'Allemagne, un Buy European Act était juste inimaginable. Mais je crois qu'il y a un malentendu sur ce que ça veut dire. D'ailleurs, la Commission, par exemple, toujours à la recherche du plus bas coût, a pendant tout un temps envisagé de confier le lancement des satellites Galileo aux Chinois, puis finalement les a confiés aux Russes et non pas à Arianespace. Je veux dire, je vois pas ce que l'Allemagne perdrait à ce qu'on confie le lancement de nos satellites stratégiques stratégique à une entreprise européenne dans laquelle l'Allemagne est partie prenante. Je veux dire que la question se pose à peu près dans tous les domaines. Je veux dire, qu'est-ce qui embêterait l'Allemagne dans le fait qu'effectivement pour les contrats de défense, eh ben on achète plutôt l'hélicoptère franco-allemand que l'hélicoptère américain.
Ça vous dit
qu'on gagnerait nous aussi. Je crois que le Buy American, le Buy European Act n'est pas du protectionnisme. Mais si on ne sort pas de ces procès d'intention permanents et extrêmement fatigants, parce que là, ça fait quand même 15 ans, 20 ans, mais à juste raison parfois, du côté allemand, que les Allemands font aux Français, ou dès qu'on parle de protection, dès qu'on parle de préférence européenne, etc., etc., on nous brandit le fermeture des frontières, le protectionnisme, etc., un jour, ça finira par un vrai Frexit que les Allemands, évidemment, ne veulent pas. Il faut que, de leur côté, les Allemands peut-être fassent un petit effort de compréhension des partenaires, qui ont aussi des priorités, et comprennent que ce qui est bon pour l'Europe peut aussi parfois être bon pour l'Allemagne, me semble-t-il.
Alors, Jean Quatremer, et je vous pose la question un peu à tous ceux qui sont sur la table, il y a eu une focalisation de cette campagne à Amiens autour des ouvriers de Whirlpool. Alors, je rappelle, une usine qui fabrique de l'électroménager, l'usine va être délocalisée en Pologne où les coûts salariaux sont évidemment sans commune mesure avec ceux que l'on pratique en France. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les ouvriers de Whirlpool, une Europe forte et une Europe qui protège, qui veut rebondir? Jean-Dominique Juliani.
Ça veut dire d'abord une économie française qui rattrape la moyenne de la croissance européenne, qui se libère un petit peu et qui redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire la deuxième économie continentale à égalité toute proportion gardée de population avec l'Allemagne. Voilà. Donc d'ailleurs, pour bien préciser les choses, quand Emmanuel Macron est allé discuter pendant plus d'une heure avec les ouvriers de Whirlpool, il leur a pas raconté d'histoire, il leur a pas dit qu'on allait fermer les frontières, il leur a expliqué...
Il leur a pas dit que j'allais garder l'usine avec moi, non. Tout va s'arranger. Et
contrairement à Marine Le Pen, qui est allée auparavant faire quelques selfies en disant, vous avez raison, continuez le combat. Et donc, le dialogue s'est noué avec les employés de Whirlpool. Ils ont parfaitement compris que si nous voulions garder des industries ou retrouver plus d'industries sur notre territoire, il fallait que nous soyons compétitifs, que l'économie redémarre, il fallait libéraliser un peu le marché du travail pour cela. Et donc, je ne suis pas inquiet, ce n'est pas un protectionniste. Emmanuel Macron ne fera pas une politique protectionniste, il connaît les règles européennes, il connaît le monde et l'économie mondiale, et déjà il va pouvoir l'expliquer, ce que on ne fait plus vis-à-vis des Français depuis longtemps, expliquer ce qu'est le monde et proposer quelques solutions.
Je revenais sur, là encore, un thème de campagne qui a vraiment enflammé cette campagne présidentielle, la fameuse directive des travailleurs détachés. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait la faire évoluer. On sent bien qu'il y a des difficultés du côté des pays de l'Europe centrale et orientale. L'Europe, on le sent sur un sujet comme celui-ci, est très divisée. Comment faire évoluer l'Europe? Par exemple, quelle est la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron sur cette directive travailleurs détachés qu'a beaucoup utilisée et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon?
Mais là, je reprendrai le propos de Jean-Dominique Giuliani en disant que, là aussi, le candidat Macron a été pédagogue. D'abord, en rappelant qu'il y a évidemment des travailleurs étrangers, enfin européens en France, mais aussi des travailleurs français en Europe. Il faut penser aux deux. Hein, et que donc, quand on dit virilement qu'on va arrêter le détachement des travailleurs européen en France, ben on met au chômage les travailleurs français détachés en Europe. Il a aussi dit que, évidemment, quand des travailleurs détachés viennent, ben ils peuvent être un atout du point de vue de leur coût, du pouvoir d'achat, de ceux qui font appel à eux. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on fait. Mais ceci dit, il est absolument inadmissible que les textes européens, qui sont assez clairs, soient à ce point-là violés, non respectés. La directive sur le détachement des travailleurs, elle est très claire. Elle dit qu'on ne peut pas être payé en France en dessous du SMIC. Or, nous savons qu'il y a des entreprises boîte aux lettres qui embauchent des travailleurs européens, voire même certains Français, hein, parce qu'il y a au moins 15 000 Français détachés en France, et qui ne respectent pas la loi européenne et les dispositions européennes. Donc le premier enjeu sur la directive travailleurs détachés, c'est d'en imposer l'application stricte. Mais ça, c'est un enjeu en grande partie français, hein, c'est l'inspection du travail français. Qu'il faut renforcer, qu'elle aille faire des contrôles, notamment sur les chantiers. Il y a des mesures qui ont été prises également en termes d'identification justement des travailleurs qui viennent sur les chantiers. Alors au-delà de ça, on peut améliorer encore la directive sur le détachement des travailleurs. Je pense que Emmanuel Macron a notamment proposé que la durée maximale du détachement soit ramenée de 2 ans à 1 an, parce que c'est vrai qu'un détachement dans sa philosophie au début, c'était pas pour être
c'était quelques mois
permanent, voilà. Et puis dans ce cadre-là, on aura des discussions assez viriles, effectivement, avec notamment les pays d'Europe centrale et orientale, malgré tout, parce que si tout doit être fait pour corriger les abus et les fraudes hein, au travail détaché, sur la philosophie générale, qui est une philosophie libérale hein, du traité de Rome, il y a une concurrence qui s'exerce en Europe. Effectivement, les pays d'Europe centrale et orientale ne manqueront pas de nous dire que eux achètent énormément de produits français et de services français. Il suffit d'aller en Pologne, d'ailleurs, pour voir qu'il y a beaucoup de produits et de services français. Qu'en revanche, en France, il est assez difficile de discerner les produits polonais hein, qui sont achetés, et que donc il faut quand même qu'il y ait un équilibre d'ensemble et que la France ne peut pas se fermer complètement à une forme de concurrence quand elle est, encore une fois, saine.
Hans Stark, vous vouliez réagir.
Bah, j'enchaîne sur deux choses. D'abord, peut-être sur la remarque aussi de Jean Quatremer. Vous m'avez gentiment appelé votre invité allemand. Alors, d'abord, je suis français et allemand. Donc, il y a les deux là-dedans. Je réclame les deux appartenances, ma double nationalité.
Un peu comme Matthias Teckel, le ministre
de l'Intérieur. Ma double culture. Donc, je voulais insister cependant sur le fait que nous avons entre nos deux pays, la France et l'Allemagne, deux cultures économiques qui sont différentes. Évidemment, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions stratégiques, politiques, dans le domaine économique, comme par exemple en matière de défense et de sécurité, la France est dans une position qui lui facilite la tâche dans la mesure où il y a en France depuis toujours une politique industrielle. Cette politique industrielle est absente en Allemagne. En Allemagne, les décisions économiques sont prises par les acteurs économiques et lorsque les acteurs économiques trouvent qu'il est dans leur intérêt à eux d'aller chercher leur bonheur en Chine, ils le font. Donc voilà, c'est-à-dire nous sommes face à deux cultures qui sont différentes et on ne peut pas... c'est une réalité. Donc ce qui n'empêche pas que je sois parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Jean Quatremer sur la nécessité dans les domaines qui sont vraiment de grande sensibilité pour la défense et la sécurité européenne de chercher d'abord chez nous où on peut trouver nos atouts. Sur les questions d'Europe centrale, le problème des travaux détachés, je trouvais c'est très intéressant, enfin très important ce que vous avez dit à l'instant, à savoir on trouve très peu de produits polonais en France ou en Europe de l'Ouest et beaucoup de produits français en Pologne. Lorsque le mur de Berlin est tombé, puis finalement les entreprises ouest européennes se sont installées à l'est et ils avaient toutes les marques avec elles, alors qu'il n'y a pas de marque est européenne. Donc ils étaient face à une situation économique qui leur était extrêmement désavantageuse. Ils ont toutes essayé de rattraper leur retard par des coûts de production beaucoup moins élevés, ce qui a fait que l'Allemagne
et notre aide financière
et notre aide financière, mais qui était nécessaire, et l'aide financière allemande aussi, qui était nécessaire, ne serait-ce que en raison de toute la dimension historique qui la faute allemande. Par rapport à la guerre, tout le monde le sait ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Allemands, du fait de leur proximité géographique à l'Europe de l'Est, semblent dans une contrainte qui est un peu différente de celle aussi des autres pays occidentaux. Et nous sommes finalement face à une situation aussi de question de solidarité entre Européens. Reste à savoir jusqu'où ça doit aller. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'abus là-dedans?
Alors justement, un mot quand même, on arrive au terme de cette émission, mais un mot sur quelque chose qui est devenu scandaleux pour les Européens, c'est-à-dire l'optimisation fiscale systématique des multinationales. Comment faire évoluer l'Europe fiscale? Alors pour mémoire, on peut rappeler que la Hongrie vient de publier un nouveau taux d'impôt sur les sociétés qui est de 9%. Il est aujourd'hui plus ou moins de 33% en France. Emmanuel Macron a promis de le faire ramener autour de 25%, qui est plus ou moins la moyenne européenne. Est-ce qu'on peut avoir une Europe qui convainc les citoyens quand des multinationales se débrouillent toujours pour payer moins d'impôts, voire pas d'impôts du tout?
Écoutez, de ce point de vue-là, il faut aussi dire la vérité. L'Europe est mieux régulée que le reste du monde. Bon, on a des progrès à faire, mais ce genre de dumping est limité. Comment peut-on le résoudre pour avancer de l'avant? Moi, j'ai une théorie. Je crois que le président Macron n'est pas éloigné, et que nos amis allemands non plus. Je pense qu'il faut que nous montrions l'exemple. Et comme nous sommes quand même le cœur du cœur de la zone euro, que la France, l'Allemagne et le Benelux, ça fait plus de 50% du PIB de la zone euro et plus de 50% des droits de vote à la Banque Centrale Européenne, nous serions un pôle d'attirance. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intégration doit se faire comme ça, par des avancées qui montrent l'exemple des bénéfices d'une intégration et d'une coopération renforcée entre partenaires. C'est par l'exemple que nous pouvons désormais avancer.
Jean Quatremer, le mot de la fin, je vous le donne, je vous offre la possibilité de conclure. Vous, dans votre livre, Les salauds de l'Europe, chez Calman Levy, donc, vous consacrez tout un chapitre sur l'Europe ne s'occupe pas des vrais problèmes pour réconcilier l'Europe avec les Européens, et, ou l'inverse. Est-ce qu'il n'est pas là le vrai problème ? D'un mot.
Évidemment, je veux dire que simplement l'Union européenne n'a pas les compétences nécessaires pour intervenir dans le domaine de la, dans les domaines sociaux ou le domaine fiscal. C'est aussi simple que ça. Et quand elle a des compétences dans le domaine fiscal, elle doit statuer à l'unanimité. Autrement dit, qu'elle n'a pas de compétences, puisque l'unanimité paralyse évidemment tout progrès. Il faut arrêter de dire aux gens et aux citoyens que l'Europe peut intervenir dans ces domaines-là. Il faut que la Commission soit très claire. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors, je peux essayer de faire comme le fait l'OCDE, que chacun montre sa bonne volonté pour lutter contre les paradis fiscaux, mettre fin au secret bancaire, blablabla, etc. Mais en réalité, sur les vraies questions, les compétences européennes sont marginales. Et je veux dire que c'est quand même, dans le domaine social, par exemple, c'est le seul endroit du traité de Rome où on trouve une exclusion très claire de compétences où l'Europe ne peut pas intervenir. Les salaires, le droit de grève, etc. Dans aucun autre domaine, on dit l'Europe ne pourra jamais intervenir là-dedans. Donc, en réalité, l'Europe, hélas, dans ces domaines-là, fait semblant. On est dans la bonne volonté souveraine des États, et c'est de ça qu'il faut sortir, de cette hypocrisie-là. Si on veut faire l'Europe fiscale et l'Europe sociale, eh bien, il faut un nouveau traité et qu'on décide à la majorité qualifiée. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas d'Europe sociale et fiscale.
Lourde tâche pour Emmanuel Macron, qui vient tout juste d'être officiellement nommé président de la République française pour 5 ans. Lourd travail pour lui en Europe, vous êtes tous d'accord, hein, lourd travail,
il entend dire. Lourd défi en Europe, mais d'abord en France, voilà. Et là, ça commence par la France, encore une fois, la rupture avec le franco-scepticisme, la réforme de la France, et ça le rendra d'autant plus fort pour refonder l'Europe, comme il le dit, ou la réorienter. C'est comme ça que les choses doivent se faire dans cet ordre-là. Ça sera un architecte, mais ce n'est pas un alchimiste.
Mais avec optimisme.
Absolument.
Merci à tous les 5 d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI. Elles sont gratuites. Sur la page Carrefour de l'Europe RFI, plein de choses vous attendent. Reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Paris, Bruxelles ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.